Radio Okapi.
Quarante-huit heures après le massacre dans le site de la plaine Savoie-Nitouri, la population s'est remise difficilement de ce choc. Plusieurs d'entre eux sont restés cloîtrés dans le site. Les éléments des FARDC ainsi que des casquets bleus sont postés aux alentours du camp pour assurer leur sécurité. Les violons ne s'accordent toujours pas entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et la population riveraine du village Nzulu. Les deux parties se disputent une superficie de plus de 1000 hectares des terres des groupements Kamurunza en chefferie de Baoundé. Notre invité dans cette édition du journal est le docteur Moïndo Fikiri Franck, actuellement médecin directeur de l'hôpital général de référence des Béni. Avec lui, nous allons parler de la baisse du tarif des frais médicaux au sein de cet hôpital. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. 48 heures après le massacre d'une cinquantaine de personnes déplacées dans le site de la plaine Savo, dans les territoires de Djougou en Ituri, la population s'est remise difficilement de ce choc. Selon des sources sur place, la plupart des déplacés ont décidé de rester sur le site. D'autres se sont rendus sur les lieux où sont exposés les corps. Des éléments des FARDC ainsi que des casquets bleus sont postés aux alentours du camp pour assurer la sécurité de ces milieux et empêcher ainsi toute nouvelle attaque du camp. Selon le président de la Croix-Rouge dans ces territoires, il est difficile pour l'instant de procéder à l'inhumation de ces personnes faute de moyens logistiques. Jean-Claude Loki.
C'est un climat de deuil et de désolation qui règne ce matin au site de Plaine Savo. Certains déplacés sont postés devant leur hutte, d'autres préfèrent rester dans leurs abris. Difficile de se remettre de ce drame, déclare une source sur place. Ceux qui exercent de petites activités génératrices des revenus ont préféré ne pas placer leurs marchandises sur les étalages, comme pour observer le deuil de leurs frères et sœurs morts dans cette attaque. Beaucoup de déplacés qui avaient quitté le site la veille pour se mettre à l'abri passent la nuit sous des hangars, dans des écoles et des églises à Boulé, à 3 km du site, où la sécurité est garantie. Ce matin, l'équipe de la Croix-Rouge s'attelle à inhumer les corps. Nous sommes butés à des sérieux problèmes, déclare le président de cette organisation humanitaire dans ces territoires. Il nous faut une machine pour creuser une fosse commune où ces personnes seront enterrées, explique-t-il. Ernest Descanin dit avoir soumis un état de besoin aux autorités du territoire pour solliciter une assistance, notamment des cercueils, des couvertures ainsi que des habits. Toute la nuit, des militaires des FADC et des casques bleus de la MONUSCO ont organisé des patrouilles en vue de sécuriser les gens qui sont restés sur le site, ajoute ce sécuriste. Bougna, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
Et toujours en rapport avec cette attaque, retenez encore qu'hier après-midi, deux hélicoptères de la MONUSCO ont évacué 19 blessés, dont 3 enfants de Bayo à Bounia. Ces personnes ont été acheminées à leur arrivée à Bounia vers la clinique privée de la place où elles sont désormais prises en charge. L'un des rescapés de cette attaque rencontré ce matin affirme avoir vécu l'horreur et n'a eu sa vie sauf que grâce à l'intervention des forces de la MONUSCO. Logo, l'ONU remercie la mission onusienne pour cette assistance. Il est dit au micro de Clarisse Ziyundula.
La MONUSCO nous a transporté des boulets jusqu'ici à bord de son hélicoptère. Nous sommes venus de là, la MONUSCO nous a transporté des boulets jusqu'ici et puis nous a menés ici à l'hôpital. Nous étions à l'hôpital à Thé, à Boulet, à la suite de la blessure que nous avons eue suite à l'attaque des Codeco la nuit dernière. Nous remercions beaucoup la MONUSCO pour nous avoir transportés au bord de son hélicoptère et nous amener ici pour les soins appropriés. Parce que si nous restions là-bas, nous n'aurions pas de bons soins. Et je continue à remercier sincèrement la MONUSCO pour nous avoir facilité la tâche et nous amener jusqu'ici pour les soins appropriés.
De l'autre côté, au Nord Kivu, une nouvelle attaque des ADF la nuit de mercredi à ce jeudi a fait 5 morts dans la localité de Nobili à l'est du territoire de Beni et frontalière à l'Ouganda. Ce jeudi matin, les habitants qui se sont déplacés nuitamment en Ouganda ont regagné leurs habitations. Pour l'instant, l'armée dit contrôler la situation. Marc Marofimbo.
C'est aux environs de 20h45 que la localité de Nobili a été attaquée par les rebelles de l'EDF, précise nos sources. Ces derniers ont visé les cachots de la police où étaient gardés les leurs, arrêtés à Kahondo les mois passés. Une fois leurs prisonniers libérés, les assaillants ont pris en otage une dizaine d'autres avant de se retirer. 5 civils ont été tués par balles, notamment des femmes, une fillette et des hommes durant leur retrait. Les acteurs de la société civile et ceux des droits de l'homme demandent aux forces conjointes d'intensifier les opérations dans cette zone afin de protéger la population civile. civile. C'est ce qu'est dit ici David Mouazé, membre de la société civile et coordonnateur d'action pour la défense des droits de l'homme, ADDH, en chefferie de Hautalinga.
Aujourd'hui, nous avons trois forces sur terrain, la MONUSCO, les FRDC et encore les IPDF, de mettre en place des mécanismes pour protéger les deux agglomérations qui hébergent aujourd'hui plus de 150 000 âmes.
C'est pour la première fois que Nobil est attaqué par les EDF dans cette région. Et c'est pourquoi les acteurs des droits de l'homme dans la chefferie appellent à la sécurisation des agglomérations telles que Luanoli, Kikingi et Bundibuya, où la présence des EDF est aussi signalée. Nos sources indiquent que les forces armées poursuivent les patrouilles de combat dans cette région sous la responsabilité opérationnelle UPDF et FARDC. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par rapport à cette attaque de Nobili, le député national Valier Dima Kadukima appelle à l'intensification des opérations militaires conjointes des armées congolaises et ougandaises dans la chefferie de Hautalinga pour contrer l'avancée des ADF vers Kamango et Nobili. Il appelle aussi à une assistance humanitaire d'urgence en faveur des déplacés concentrés à Nobili. On écoute le député Valier Dima Kadukima, joint par Martial Papimukeba.
Il est important de rappeler que pas plus tard qu'il y a seulement 20 jours, les présumés ADF ont incendié le centre de santé de référence de Luanoli. La nuit du 23 au 24 janvier, c'est hors la loi, ont tué deux personnes dans le village de Kakindo. Que des opérations militaires sérieuses soient orientées sans tarder dans la localité de Kikingi, Luanoli et leurs environs pour démanteler et contrer l'avancée de ces ADF vers Nobili et Kamango. Que les opérations conjointes FARDC UPDF soient élargies dans la chefferie de Hautalinga et ses environs. Que le gouvernement et les organisations humanitaires viennent en aide aux déplacés de guerre actuellement concentrés à Nobili.
Pendant ce temps, à Goma, le corps du colonel Ndoumé Josué repose désormais dans sa dernière demeure au cimetière Chemin du Paradis dans l'ouest de la ville. L'enterrement est intervenu ce jeudi en fin de matinée. Cet officier de la 34e région militaire est tombé sur le champ d'honneur le 25 janvier dernier dans la position militaire de Nyesisi dans le groupement des Kisigari en territoire de Rutshuru. La position avait été cible d'une attaque de rebelles présumés du M23, une position qui a été reprise par l'armée à l'issue d'au moins 2 jours d'affrontement. Et puis, un calme précaire règne à Mitoaba après une matinée agitée hier mercredi, même si le bilan officiel n'est pas encore donné par la délégation de pêche. Plusieurs sources renseignent qu'il y a eu mort dans les rangs des miliciens Bakatakatanga lors des échanges de tirs avec les militaires. Ces maïmaï ont rejoint la brousse d'après plusieurs sources. Jean Gandou.
La délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, qui est allé à Mitoaba pour s'enquérir de la situation qui a prévalu dans ce territoire, est rentrée ce jeudi à Lubumbashi. Elle laisse derrière elle Mitoaba Centre, vidé de la majeure partie de sa population. La plupart ont fui mercredi au moment des échanges de tirs entre les militaires et les miliciens. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que tous les miliciens sont rentrés en brousse. Cependant, dans leur rang, quelques-uns manquent à l'appel, renseignent certaines sources sous place. Il s'agirait pour les uns des 3 miliciens tombés au cours des échanges de tirs et d'un officier de l'armée blessé par les miliciens à l'aide d'armes blanches. Pour les autres, ce sont 6 miliciens qui sont tombés et qui auraient été jetés dans une fosse septique et d'un élément des forces armées blessé. Bilan non confirmé par l'autorité territoriale qui parle d'un milicien qui est tombé dans la fosse septique pendant les tirs de sommation de l'armée. Repêché, il a rendu l'âme à l'hôpital. Plusieurs habitants redoutent les représailles des éléments Bakatakatanga qui, dans leur fuite, auraient promis de revenir à Mitoaba Centre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis on parle culture dans cette édition du journal. C'est demain vendredi que le festival Amani 2022 ouvre ses portes à Goma. À la différence des éditions passées qui s'est déroulée sur le site du collège Mwanga dans l'est de la ville de Goma, la 8e édition aura lieu au sein de l'espace Bishweka, ce près du marché Kituku au quartier Kieshiro dans l'ouest de la ville. Sur place, les préparatifs vont bon train. Les organisateurs et leurs partenaires installent déjà les stands. Dans le territoire de Masisi, les violons ne s'accordent toujours pas entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et la population riveraine du village Nzulo autour d'un conflit foncier d'une superficie de plus de 1000 hectares de terre, un groupement de Kamuronza, chefferie de Baoundé. Le point avec Gabriel Waminga.
Dans un communiqué daté du 30 janvier 2022, dont une copie est parvenue à Radio Okapi, le chef du village Nzulo, Jean-Baptiste, s'oppose aux propos du responsable de l'ICCN, Emmanuel Demerode, qui, dans un communiqué diffusé sur les ondes de Radio Okapi lundi dernier, dénonçait les initiatives machiavéliques de certains chefs locaux, appuyés par certains opérateurs économiques et autorités, sans les citer, d'envahir les terres du parc national de Virunga Nzulo sur la route Sake-Goma. Par la voix de son conseil, le chef du village Nzulo dit détenir la décision du tribunal de grande instance de Goma, dont une copie n'est pas parvenue jusqu'à ce jour à Radio Okapi, laquelle décision avait débouté l'ICCN. C'est comme le confirme ici le conseiller de la population d'Nzulo, Julio Tuneko.
Nous ne savons pas comment une population détentrice des actes d'un jugement qui le réhabilite dans ses droits et ses actes d'exécution peut être traité d'envahisseur.
Pour l'ICCN, la victoire dont se prévaut la population riveraine d'Nzulo n'est qu'une simple utopie au stade actuel. Maître Lucien Mouniantouare.
L'ICCN, qui a un mandat légal pour assurer les limites du parc, ne peut pas céder à une action illégale et irrégulière.
Goma, Gabriel Ouameya, Radio Okapi.
Et puis, agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et les humains. Thème de la Journée mondiale des zones humides commémorée hier 2 février. Au sud Kivu, la commémoration de cette journée a eu lieu dans la plaine de la Ruzizi, au village de Katogota, en territoire d'Uvira. Une occasion de sensibiliser la population locale sur les gestes écologiques à adopter pour protéger les hippopotames et restaurer les zones humides. Rachel Kessembangu revient de Katogota. Voici son reportage.
Travailler avec la communauté afin de sécuriser les zones humides en promouvant un usage durable de ces milieux fragiles. C'est ce qu'affirme Josué Aruna, président de la société civile environnementale au sud Kivu.
Quand on parle des zones humides, c'est-à-dire c'est tout milieu où on peut trouver de manière permanente ou temporaire la présence de l'eau. Que ce soit un aménagement artificiel ou naturel, c'est une zone humide. Notre souci, c'est de travailler avec la communauté pour sécuriser la zone littorale de la Ruzizi et où nous trouvons des espèces rares comme les hippopotames.
Malgré l'abondance des zones humides en RDC, la plupart ne sont pas reconnues comme telles. Monsieur Dédieu Biaoumbe, directeur provincial de l'ICCN et chef de site du parc national de Kahuzi-Biega.
Nous avons beaucoup de zones humides dans notre pays, nous des cours d'eau, nous avons beaucoup de lacs et beaucoup de grandes rivières. Mais curieusement, la République démocratique du Congo n'a pas beaucoup de zones qui sont classées comme zones humides. Et au niveau local, c'est seulement la zone où nous sommes, la plaine de la Ruzizi, qui a été par un édit provincial classé aussi comme zone humide. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'espèces aquatiques dans ces zones humides et qui ne sont pas aussi bien suivies puisqu'ils ne sont pas protégées.
Il reste donc un grand travail à faire afin de sensibiliser les populations riveraines des zones humides pour mieux sécuriser ces zones. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province de Lomami, hausse des prix de charbon de bois dans la ville de Mweneditu. C'est à 132 km de Mbujimayi. Un sac de 100 kg de charbon de bois se négocie actuellement entre 25 et 27 000 francs congolais. Pourtant, il s'est vendu à 15 000 francs la semaine dernière. Quelques femmes marchandes parlent plutôt de la loi de l'offre et de la demande. Esther Dalafina.
Le prix de charbon de bois a augmenté sur les différents marchés de la ville ferroviaire de Mweneditu depuis le début du mois de janvier. Au marché Kolobo, situé dans la commune de Moussadi, un sac de charbon de bois qui s'est vendu à 15 000 francs congolais au début du mois de janvier, puis à 20 000 au milieu du mois, se négocie actuellement à 25 voire 27 000 francs congolais. Les revendeurs justifient cette flambée par la rareté des bois dans les milieux ruraux pendant cette période pluvieuse.
On était en train de couper les arbres, on coupait même les jeunes plantes. C'est à cause de cela que les braises ont rehaussé le prix.
Certaines femmes ménagères estiment qu'il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Ceux qui amènent le charbon de bois ne sont plus nombreux. Cependant, nous nous retrouvons là-bas très nombreuses à la recherche de charbon de bois. Signalons que par manque de charbon de bois, quelques ménagères utilisent le bois de chauffe pour la cuisine. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou vient d'annuler la décision de mise en détention du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Cette autorisation de mise en liberté provisoire intervient suite à une audience de la Chambre de contrôle du tribunal hier mercredi. Pour le moment, selon les informations, il n'a pas encore quitté la maison d'arrêt et de correction des armées. Et puis en Syrie, au moins 9 personnes, dont 3 civils, ont été tuées ce jeudi 3 février avant l'aube dans une opération anti-djihadiste des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, repris par l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Moïndo Fikiri Franck, actuellement médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Avec lui, nous parlons de la baisse du tarif des frais médicaux au sein de cet hôpital. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Il explique dans cet entretien avec Guylaine Kassassia. Suivez.
Monsieur le docteur, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Actuellement, comment évoluent les activités sanitaires à l'hôpital général de référence de Beni?
C'est une joie pour moi de communiquer à la population à travers votre radio que actuellement nous avons un tarif forfaitaire dérisoire de vigueur à l'hôpital général de référence de Beni dans nos centres de santé respectifs. Pour bénéficier de ces tarifs, il faudra que tous les ménages s'identifient au niveau des aires de santé respectives ou des centres de santé respectifs. On pourra accorder un jeton à ces ménages-là. Et à chaque occasion que un membre de ce ménage pourra tomber malade, il pourra venir se faire soigner à l'hôpital général de référence avec une note de référence à provenance de son centre de santé respectif. Il va payer un tarif très faible, on l'appelle tarif incitatif pour celui qui est inscrit.
C'est par exemple
lorsque vous venez voir un médecin à l'hôpital général et que vous êtes inscrit, vous allez payer 4 $ au lieu de 19 $ pour celui qui n'est pas inscrit. Pour une dame qui vient accoucher, au lieu de payer 54 $, elle va payer 5 $ seulement après un accouchement.
Oui, monsieur le docteur, maintenant, celui qui vient consulter, il paye 4 $ au lieu de 19, les restes, les 15 $ là, qui va payer?
Le reste, c'est qu'il y a un partenaire du gouvernement qu'on appelle PDSS. C'est un partenaire qui travaille avec le ministère de la Santé du Congo, donc qui vient en appui au ministère pour essayer de prendre l'écart pourvu que toute la population, quel que soit le niveau de vie, accède plus ou moins aux soins de santé primaires. Et ça pour une couverture sanitaire universelle. Donc, c'est une sorte de inopportunité qui incite les ménages à pouvoir chaque fois consulter d'abord les centres de santé. Et c'est les centres de santé, pour faire respecter la pyramide, qui va référer le malade à l'hôpital général de référence. Et à l'hôpital général, il va bénéficier des soins pour un tarif dérisoire. L'idéal, c'est d'abord inscrire votre ménage et obtenir les jetons.
Alors, une sorte de gratuité, hein? Ça commençait quand?
Une gratuité presque partielle, parce que vous voyez les montages, justement, c'est dérisoire. Elle a commencé au début du trimestre 4 de l'année passée, mais les gens n'ont pas compris le message avant. Je crois que les gens maintenant commencent à se rattraper. C'est comme ça, c'est au fur et à mesure que les jours passent, ça devient encore de plus en plus effectif.
Et c'est jusqu'à quand?
Il n'y a pas une date communiquée jusque-là. Mais nous pensons que le moment venu, on pourra le dire encore, passer à votre média pour dire que non, ça a pris fin. Mais nous pensons que c'est la politique nationale du pays. C'est vers laquelle le pays veut nous amener.
Donc c'est ce qui se ferait. On ne viendrait pas de la maison jusqu'à l'hôpital général?
De toutes les façons, on peut venir de la maison jusqu'à l'hôpital général lorsqu'on se trouve dans la nécessité et que au préalable, si vous avez été identifié, parce que on ne s'identifie pas quand on est malade. Donc on est recensé. Vous restez à la maison avec vos papiers d'identification. Comme ça, quand vous tombez malade, vous prenez seulement vos papiers là, vous mettez dans votre sac et vous venez à l'hôpital.
Oui, docteur, pour finir maintenant, un message à la population de Beni qui vous écoute à travers Radio Capi.
En tout cas, je demande à la population de s'approprier ce projet ici. Ce projet vraiment est venu appuyer la misère de la population. Vous savez que s'il faut parler seulement de notre zone ici, nous sommes sinistrés à plusieurs niveaux. Mais lorsqu'il y a un partenaire de prise en charge qui vient appuyer les soins, il permet aux plus démunis de pouvoir accéder aux soins. Je crois que c'est un projet à capitaliser par toute la population. Et je demande à toute la population d'aller se faire enregistrer dans les centres de santé Il ne faut pas attendre que l'eau soit malade pour aller chercher l'identification du ménage.
Et l'enregistrement là au centre de santé, ça coûte combien? Ça paye combien?
Ça coûte 1000 francs par individu du ménage. Donc un ménage constitué par exemple de 10 personnes payera 1000 francs fois 10 personnes, ça fait 5000 francs. Donc 0,5 par individu. Un ménage de 2 personnes, c'est 1 dollar. Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est ce que j'avais à partager avec vous pour l'instant.
Merci beaucoup.
Docteur Franck Moindo Fikiri, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Béni, il s'entretenait avec Guylaine Kassassia. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci pour votre particulière attention.